Il est exactement 18h au studio Kalangou, à Niamey et partout au Niger. Nous sommes vendredi 14 juin 2019 au micro Diallo Mariama Kenda. Le journal en français, c'est maintenant. Bonsoir, voici nos titres. 2 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan des affrontements entre communautés dans la commune de Tchétimari la semaine dernière, des affrontements qui durent depuis 2018, des échos dans ce journal. La stratégie nationale de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent au cœur d'une rencontre hier à Agadez entre le Centre national d'études stratégiques de sécurité, les leaders religieux, les forces de défense, les acteurs de la société civile, les femmes et les jeunes de la région. Le département de Filingué, confronté à une déforestation sous la menace de l'homme, à suivre le directeur départemental de l'environnement dans la partie magazine de cette édition. Bienvenue messieurs, dames. Depuis 2018, la commune de Tchétimari connaît des affrontements entre communautés. 2 morts et plusieurs blessés ont été enregistrés la semaine dernière pour l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, section de DIFA. Cette situation doit trouver une solution pour éviter qu'elle ne dégénère. Reportage avec Lawan Boukar.
Depuis le début du mois de juin, 2 morts et 13 blessés ont été enregistrés à Tchétimari suite à des affrontements entre les populations de 2 communautés. Il y a des commanditaires tapis dans l'ombre derrière cette situation, a laissé entendre Jibril Amalamkala, le maire de la commune rurale de Tchétimari.
Il faut mettre ensemble les villageois et les peuples pour comprendre qu'est-ce qui est à la base de ça. Par exemple, moi j'ai plus de 70 ans, j'ai vécu avec les peuples. On n'a jamais eu ce problème. Aujourd'hui, s'il y a un problème, c'est qu'il y a déjà qui ne sont pas sur le terrain, mais qui attisent. Moi, je pense qu'au niveau des services chargés des enquêtes dessus, cela, ils doivent faire des recherches pour savoir quels sont ceux qui sont derrière cette affaire, qui fait même des morts d'hommes.
Pour solutionner ces conflits récurrents et prévenir d'éventuels dérapages, le responsable de l'AREN, Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, section de DIFA, estime que les différents chefs coutumiers administratifs doivent s'impliquer davantage. Hassan Ardo Ido.
S'il y a un affrontement, on peut penser en période de travaux champêtres que c'est un problème autour des dégâts. Mais en cette période où nous n'avons ni champ, ni semblant de champ, et que tous les jours il y a des groupes qui s'affrontent, c'est qu'il y a une autre raison. Il appartient aux responsables des populations en question. C'est à eux de prendre leurs responsabilités pour comprendre réellement quel est le mobile et comment le régler.
Il est impératif de prendre urgemment des mesures adéquates pour arrêter cette crise.
Vers l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, le Centre national d'études stratégiques de sécurité a rencontré à cet effet hier à Agadez les leaders religieux, les forces de défense et de sécurité, les acteurs de la société civile, les femmes et les jeunes de la région. Hassan Moulay du CNSS au micro de Moussa Mamane.
Ces entretiens entrent dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la radicalisation, qui est menée actuellement par le Centre national d'études stratégiques et de sécurité. Cette stratégie nationale est élaborée à partir d'une méthodologie qui consistait à parcourir toutes les 8 régions du Niger et à administrer des questionnaires individuels mais aussi collectifs pour recueillir les avis des uns et des autres sur la question de la thématique. Nous avons tenu à ce que notre méthode soit une méthode inclusive parce qu'on est parti du principe que les facteurs de basculement des uns et des autres peuvent varier d'une région à une autre. Nous cherchons aussi les mesures à prendre pour prévenir justement cette radicalisation.
Des baluchons, des ustensiles vides, des nattes et des matelas emportés à la hâte, fuyant les représailles contre leur communauté dans le nord du Burkina Faso. 1 millier de personnes ont trouvé refuge à Ouagadougou, nous apprend une dépêche de l'AFP publiée aujourd'hui. Dans ce quartier périphérique de l'arrondissement 9 de la capitale burkinabé, les salles de classe et autres sites d'accueil de fortune ne peuvent abriter la totalité des 1200 déplacés obligés pour certains de dormir à la belle étoile, précise la dépêche. Dans un communiqué publié hier, le président de la commission de la CEDEAO condamne, je cite, « avec la plus grande énergie » ce lâche acte criminel que rien ne saurait justifier et exprime au gouvernement et au peuple malien sa compassion et sa solidarité ainsi que celle de toutes les autres institutions de la CEDEAO. Ce communiqué fait suite à l'attaque armée perpétrée dans le village de Sobam au Mali dans la nuit du 9 juin. Pour rappel, cette attaque a fait une trentaine de morts selon un bilan officiel, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Le Nigérien est réticent à donner du sang, déclare Boubacar Adjara, directrice du centre régional de transfusion sanguine de Niamey à l'occasion de la journée internationale du donneur de sang célébrée ce 14 juin. Elle indique même, avec 200 poches de sang par jour, le centre est loin de satisfaire la demande de Niamey. Boubacar Adjara au micro d'Adama Dawaki.
Tout le monde peut être donneur de sang à condition que la personne soit en bonne santé, qu'il ait au moins 18 kilos, pas plus de 60 pour les nouveaux donneurs, les anciens donneurs 65 ans, avoir au moins 50 kilos. Pour les femmes, ne pas allaiter, ne pas être en période de menstrue ou bien ne pas être enceinte. Pour devenir un donneur régulier, il suffit de venir faire son premier don. Si les résultats sont négatifs, donc vous êtes apte à donner du sang, les poches sont testées. On fait les 4 marqueurs qui sont l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH et la syphilis. Si c'est un homme, chaque 3 mois, il peut venir donner le sang. Et si c'est une femme, chaque 4 mois. Sincèrement, on n'a pas du sang disponible. Le problème du Nigérien, il ne veut pas donner du sang. Et pour satisfaire la demande d'une seule journée, je pense même avec 200 poches, on ne va pas s'en sortir. Parce qu'on est le seul centre qui ravitaille toute la ville de Niamey. Par exemple, l'hôpital national, la Mordé ou la MIG peut nous demander 50 poches par jour.
Au Niger, les albinos sont victimes de stigmatisation et de discrimination, un fait déploré par la présidente de l'association des albinos du Niger face à la presse ce matin à Niamey. Kadidiatou Moumouni a rappelé que cette frange de la société a les mêmes droits que tous les autres citoyens. Propos recueillis par Adama Dawaki.
Parce qu'il y a la stigmatisation de la société. Il y a la stigmatisation de la société nigérienne. Alors, nous sommes dus pour cette édition. Nous allons approcher les médias pour que dans votre rôle d'éveil de conscience, vous puissiez contribuer à la levée des barrières. Pour qu'il ne puisse plus avoir de stigmatisation, de discrimination de la société nigérienne. Sur le plan mariage, il y a de la stigmatisation, il y a de la discrimination. Quand vous voyez une personne atteinte d'albinisme qui a des problèmes de peau, il y a des gens qui ne veulent même pas s'asseoir à côté de la personne, qui ne veulent même pas manger avec cette personne, alors que nous sommes les mêmes. La seule différence, c'est l'absence de la mélanine, c'est tout. Les personnes atteintes d'albinisme sont des personnes comme toutes les autres personnes, pour dire que les personnes atteintes d'albinisme ont des droits comme tout le monde. Ce sont des êtres humains comme tout le monde et qu'ils ont des droits sur la base de l'égalité avec les autres.
La route express qui va de l'aéroport au centre-ville de Niamey est déclarée non marchande sur l'espace public. Dans un communiqué publié hier sur la page Facebook de la ville, le président de la délégation spéciale de Niamey a annoncé l'interdiction de commerce, d'occupation de la façade principale du Grand Marché de part et d'autre de la route express. Dans le même communiqué, le responsable de la ville de Niamey interdit le stationnement des véhicules en dehors des zones autorisées le long de la route et le franchissement de la retenue en béton entre les voies express. Prestations gratuites dans les différentes communes de Niamey, conférence avec pour thème le Sahel à l'épreuve du trafic de drogue par les jeunes avocats du Niger cette semaine. C'est à l'occasion de la deuxième édition de la semaine des jeunes avocats du Niger. Maître Oumarou Bachir Nana Aïcha, la secrétaire générale de l'association au micro d'Abibou Garba.
Au cours de cette semaine, le lundi, toutes les populations qui sont basées dans les différentes communes, nous avons fait appel à eux. Ils étaient venus massivement. Donc chacun nous a posé son problème juridique, quoi. Un problème juridique particulier qui le préoccupe. Donc nous avons eu à leur donner des avis juridiques gratuitement, sans un franc. Donc le lendemain, le mardi 11, nous avons également passé notre journée à la défense gratuite de tous les prévenus qui sont passés devant le juge des flagrants délits. Donc tous les dossiers qui étaient en état, nous avons eu à les plaider. Le mercredi également, nous étions allés à la prison civile de Niamey pour rendre visite aux femmes qui étaient détenues et également aux mineurs. Donc là-bas également, nous avons fait des consultations gratuites également sur les droits des détenus en particulier. Hier, c'était la cérémonie officielle et après la cérémonie, nous avons débuté les travaux qui se poursuivent jusqu'à présent.
Mais traditionnel préparé à base de mil, le burabusco est lié à l'art de la cuisine des Kanuri dans la région de Diffa. Cependant, sa préparation diffère d'une femme à une autre. Falmata Yakuba, dite Yajira, dite Hajia Fandaou, explique son savoir-faire sur la transformation du burabusco et la sauce qui l'accompagne. Elle est au micro de notre envoyé spécial Awa Ousmane.
Pour obtenir du burabusco, une femme bien propre cherche du mil qu'elle amène au moulin. Après, elle le tamise, le lave et l'expose au soleil pendant 2 jours. Après ces 2 jours, elle ramène le mil au moulin pour obtenir une farine granuleuse fine qui constitue le burabusco. Pour sa cuisson, on met la farine dans une marmite. On y ajoute de l'huile. Après ébullition, on procède à son malaxage. Et pour préparer la sauce du burabusco, il faut de l'oignon, du poivron, de la viande, des épices qu'il faut bien cuire. Ensuite, on y ajoute les feuilles d'oseille et un peu de la pâte d'arachide. Lorsque la viande est bien cuite, la sauce devient épaisse et délicieuse.
À présent, la deuxième partie du journal, la partie magazine. L'accroissement de la population et ses besoins en bois de chauffe seraient les principales causes du phénomène de la déforestation à Filingué. Selon les responsables du service de l'environnement, ce déboisement massif impacte négativement sur l'écosystème, indique le directeur départemental de l'environnement de Filingué, le lieutenant-colonel Mustapha Ibrahim, interrogé par Balkissa Amidou.
La déforestation dans le département de Filingué, une préoccupation des agents de l'environnement de la localité. Les conséquences comme l'avancée du désert sont perceptibles et inquiétantes selon le lieutenant-colonel Mustapha Ibrahim, directeur départemental de l'environnement de Filingué.
La déforestation, c'est l'un des problèmes qui donne vraiment du fil à tordre chaque jour. Parce que il y a tellement de déboisement. Et vu la menace du désert qui caractérise notre pays, vraiment nous sommes obligés de fournir toujours un peu plus d'efforts en vue de préserver notre environnement.
Et quelles sont les causes de cette déforestation?
Elles sont multiples. Un, c'est l'accroissement des besoins de la population. Besoin en termes de bois de chauffe, besoin en termes de bois de service, besoin en termes de l'exploitation pour le fourrage, besoin en termes de la destruction des forêts en vue d'extendre les champs de culture. Et pour ce qui est des villes, besoin même pour l'urbanisation. Donc souvent, il y a des espaces forestiers qui sont détruits pour l'objectif d'étendre les lotissements au niveau des zones périurbaines.
Voilà. Et quelles sont les conséquences que cela peut avoir sur l'environnement?
Les conséquences sont multiples. Je prends sur le plan écologique, ça crée la dégradation des terres. Donc vous allez voir là où les terres sont fertiles et deviennent complètement incultes à travers la formation des glaciers. Il y a le phénomène global de la désertification, avec tout ce que ça comporte, comme le mouvement des dunes, extrême chaleur, comme tous les impacts vraiment liés au changement climatique.
Et quelles sont les mesures ou les énergies renouvelables que vous proposez aux populations afin d'éviter la déforestation?
Nous avons le charbon minérale. Nous avons le gaz butane dans les briquettes. Dans ça, il y a d'autres technologies aussi, telles que les foyers améliorés, qui permettent là d'économiser l'énergie. Il y a aussi les fours électriques, donc pour ceux qui ont un accès à l'électricité. En tout cas, il y a une gamme de technologies qui sont maintenant disponibles pour réduire donc la consommation ou bien le recours à nos ressources ligneuses qui sont déjà très insuffisantes.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.